VOA Afrique, les infos, à Washington.
Idriss Fall, les Tunisiens ont voté pour élire les 217 députés du Parlement. Les bureaux de vote ont fermé. Aucun incident majeur n'a été signalé. À la mi-journée, la participation avait atteint seulement 23,5% selon l'instance chargée des élections. Ces législatives seront suivies dimanche prochain par le second tour de la présidentielle qui sera disputé entre l'universitaire Kais Saied et l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement en prison. À Kigali, la police a annoncé que les forces de sécurité rwandaises ont tué 19 des auteurs d'une attaque meurtrière menée dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord du pays. Le communiqué indique que 5 personnes ont été arrêtées sans fournir plus de détails. Le bilan de cette attaque a été révisé à la hausse pour partir de 8 à 14 morts. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 religieuses originaires du Burundi ont été tués dans l'effondrement d'un pylône exploité par la compagnie Orange à Uvira, dans le sud de Kivu. Ce pylône est tombé sur l'enclos du couvent des sœurs Clarisse. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a qualifié d'élucubration les spéculations sur un putsch militaire à la suite d'un revers infligé par les djihadistes à l'armée malienne. Dans 2 attaques à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière avec le Burkina Faso, 38 soldats maliens ont été tués selon un bilan officiel et plusieurs dizaines de soldats sont toujours portés disparus. En Côte d'Ivoire, plusieurs dizaines de personnes ont marché à Abidjan pour dénoncer la mort d'une fillette de 3 ans. Boissa Ahou Oseyane est morte après avoir été enlevée, violée et abandonnée près de son village de Boré-Etienkro, à 25 km de Dimbokro. Elle a été hospitalisée à Abidjan. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu la sauver. L'Égypte a appelé à une médiation internationale au sujet de la construction du méga barrage sur le Nil par l'Éthiopie après des négociations tripartites au Soudan qui ont abouti selon le Caire à une impasse. Cependant, Addis Abeba refuse de parler d'impasse. L'absence d'accord entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pourrait susciter un conflit sur le partage de l'eau. Ici Washington, la voix de l'Amérique. En Irak, le gouvernement d'Abdel Mahdi tente de calmer la grogne sociale. Il a annoncé 17 mesures pour allant de l'aide au logement à l'allocation de pension aux jeunes sans emploi. Près de 100 personnes ont été tuées depuis le début de ce mouvement contre la corruption et le chômage des jeunes. Le gouvernement britannique a laissé entendre qu'il pourrait assouplir sa position sur les points dits problématiques de son plan de Brexit, mais a appelé l'Union européenne à montrer de la flexibilité. Le Premier ministre Boris Johnson a présenté mercredi son projet pour mettre fin au casse-tête de la frontière irlandaise. Londres et Bruxelles appellent à faire mutuellement des compromis avant le début demain des négociations sur le Brexit. Ici, aux États-Unis, un deuxième lanceur d'alerte est prêt à témoigner sur le président américain Donald Trump, visé par une enquête parlementaire en vue d'une procédure de destitution. C'est ce qu'a indiqué son avocat sur la chaîne ABC. Mark Zaid, qui représente le premier lanceur d'alerte, a indiqué que son client était également membre des services de renseignement et avait une connaissance directe sur une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien. La Corée du Nord a déclaré dimanche n'avoir pas d'intérêt pour la poursuite des négociations sur le nucléaire si les États-Unis n'abandonnent pas leur politique hostile, a déclaré un porte-parole de la diplomatie nord-coréenne. C'est suite à l'échec hier des consultations en Suède entre Pyongyang et Washington pour tenter de renouer le dialogue.
Soyez au cœur de l'info.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Eric Manidakiza, avec vous dans ce dialogue des religions, ce soir, la fraternité humaine. Le Vatican a institué la journée mondiale du migrant et du réfugié à l'occasion de la 105e édition. Le pape François a inauguré sur la célèbre place une sculpture rendant hommage aux migrants. L'œuvre en bronze et en argile représente un groupe de 140 migrants de différentes cultures et périodes historiques massés sur une embarcation. N'oubliez pas l'hospitalité, selon les mots inscrits sur cette sculpture. Alors, la place accordée à l'étranger dans l'Ancien Testament, et notamment dans les lois qui le concernent, est due au fait qu'Israël a été lui-même immigré en Égypte. Abraham est d'ailleurs présenté comme un arméen errant descendu en Égypte pour y séjourner en immigré. On retrouve ça dans Deutéronome 26:5. Dans la traduction moderne de la Bible, le terme étranger renvoie le plus souvent à deux mots hébreux, nokri et ger, qui recouvrent deux niveaux différents de relations avec l'israélite. Le nokri est l'étranger au sens large du terme, c'est un voyageur, un négociant fortuné, indépendant. Il n'a avec l'israélite que des rapports temporaires. Il peut compter sur des coutumes d'hospitalité. Il n'est pas soumis à la loi, mais n'est pas non plus protégé par elle. Le ger, en revanche, est un immigré installé en Israël. C'est le réfugié chassé de son pays, demande la protection d'une communauté. Son statut semble être celui d'un serviteur. Sans ressources, sans défense, on le trouve souvent associé à la veuve et à l'orphelin. Dans le code de l'Alliance, on parle de l'Exode dans les chapitres 21 et 23, à 23. Le plus ancien des codes, daté de la fin du 8e siècle ou du début du 7e siècle avant notre ère, on trouve des lois de protection de l'immigré. Par exemple, tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'immigré car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. Mais aussi, six jours, tu feras ce que tu auras à faire, mais le septième jour, tu semeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent leur souffle. C'est dans Exode 23, 12. L'obligation du sabbat a ici une visée humanitaire. En tant que croyant, accordez-vous une attention particulière à l'étranger? C'est la question qui vous a été soumise sur votre page Facebook. Nous avons Marie-Jeanne Abega en ligne. Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir, la VOA.
Voilà, on parle de la fraternité humaine, de l'hospitalité, si vous voulez, qui concerne le migrant et le réfugié. Vous avez suivi l'action du pape François dimanche. Je vous écoute.
Oui, bien évidemment. Je pense que quand on parle du migrant ou du réfugié, ça ne renvoie pas à une couleur de la peau ou à des origines. Donc tout le monde peut se retrouver migrant, tout le monde peut se retrouver réfugié. Et le geste du pape, c'est un signe d'hospitalité, et l'hospitalité qui est d'ailleurs une très grande vertu qui est consignée dans la Bible, c'est-à-dire un grand signe d'amour. Le pape a démontré par cette action de la compassion vis-à-vis de ces personnes qui se sont retrouvées loin de leurs origines, loin de leurs familles, dans des situations inconfortables. Il a eu une pensée pour ces personnes, c'est pour cela qu'il a voulu immortaliser cela à travers ce qui a été érigé. Donc, pour moi, son geste est louable et ça va droit au cœur parce que nous pensons que nous-mêmes, certainement là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons aussi nos familles, nos aïeux ont immigré et se sont retrouvés à ces endroits et on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ces personnes ont vécu. Il a fallu des peuples hospitaliers pour les accueillir. Et je pense que le pape s'est souvenu de passage biblique où Abraham a été béni grâce à l'hospitalité. La veuve, beaucoup de personnes ont été bénies pour avoir usé de l'hospitalité envers l'étranger, envers la veuve, envers des réfugiés. Donc, vraiment, c'est un geste à féliciter et même à acclamer.
Merci. Marie-Jeanne, restez avec nous. Nous avons Alphonse Mbouaki. Alphonse, bonsoir. Alphonse. Oui, vous avez la parole.
L'hospitalité est une vertu divine, que l'avait exercé beaucoup en vue la main de Dieu, en tout cas de nous. Par exemple, Abraham a exercé l'hospitalité et Dieu l'a béni. Il est le père de la foi. Encore, l'autre, pour avoir exercé l'hospitalité, sans le vin biblique, il a échappé à comment à l'hécatombe de Sodome et de mort. Donc, l'hospitalité, c'est une exercice qui bénit. Et donc, si on est un croyant, on doit s'inspirer de Dieu. Dieu est le protecteur de la terre. Donc, Dieu, il n'y a pas d'apatrie. Pour Dieu, il n'y a pas d'étranger. Donc, si quelqu'un qui est différent de toi, mais toi, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Si tu veux, lorsque Israël sortait de l'Égypte, Dieu a recommandé Israël de sortir avec des étrangers. Lorsque Israël sortait de l'Égypte et pour la terre promise, Dieu a recommandé à Israël de ne pas maîtriser les étrangers parce qu'ils étaient étrangers en Égypte. Et donc, c'est la volonté de Dieu lorsque on exerce l'hospitalité. L'hospitalité signifie qu'on a l'amour. L'amour vient de Dieu. Lorsque on exerce l'amour, vous racontez la sentiment de Dieu, vous racontez la volonté de Dieu. Et donc, les actions du peuple constituent une démonstration d'amour, une démonstration, une incitation à l'hospitalité par rapport à beaucoup de nations qui négligent, qui méprisent les étrangers. Et donc, si on applique cela, il y a des nations qui seront bénies lorsqu'on accueille sans discrimination. On peut pas compte de couleurs, on peut pas compte de la langue, on peut pas compte de culture. Je vous dis que Dieu paiera sa main sur cette nation. Et donc, ce que le peuple a fait, c'est un passage. Donc, c'était pour éduquer les gens, c'est pour pousser les gens à accueillir n'importe qui dans leur pays, dans sa maison, s'il y a moyen. Et donc, même un jour, si on reçoit un homme de Dieu, on reçoit quelqu'un qu'on ne connaît pas, Dieu sera avec la personne qui accueille, qui reçoit. Et donc, je pense que le pape a réussi parce qu'il s'est inspiré de la volonté de Dieu.
Merci, Alphonse. Alphonse, merci beaucoup pour votre contribution. Archiduc Théodore de N'Djamena, il dit cette action du souverain pontife est un acte humain très normal et en tant que croyant, j'accorde une place particulièrement importante à l'étranger nécessitant une protection. Nous avons Salomon Mungindu en ligne. Salomon, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de la Zone Afrique.
Voilà, vous parlez de Sarah dans la Bible. Voudriez-vous élaborer davantage?
Oui, je disais qu'il faudrait prendre l'exemple de Sarah dans la Bible. Vous savez, l'hospitalité est une vertu qui tombe. En tant que chrétien, je suis d'abord catholique, je commence par féliciter le pontife qui a eu l'initiative d'accorder quelque chose de bon aux migrants et réfugiés. Donc, si quelqu'un qui est au milieu pour venir se réfugier quelque part, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas senti à l'aise. Alors, s'il refuge pour chez vous, vous trouvez aussi une grâce devant Dieu. La maison qui reçoit des visiteurs, c'est une maison qui est bénie. Donc, nous devons donner place aux étrangers qui viennent dans différents pays pour se sauver la vie, comme Jésus aussi était accueilli en Égypte, ce n'était pas pour rien. Alors, si ce n'était pas cela, peut-être qu'on allait tuer Jésus et ainsi de suite. Donc, il arrive des fois, nous voyons, il y a des paradoxes, des gens qui menacent ici, la xénophobie. qui est de qui est là. Alors, et pourtant la Bible nous demande de même au prochain, quelle que soit la race, la couleur. Donc, cela n'importe pas. Nous avons tous le sang rouge qui coule sur nos veines. Donc, ce qui vaut mieux de garder confiance à ceux qui viennent et leur donner le temps. Et à place, s'il y a aussi à se partager à manger, on le donne. C'est ce que nous recommande la Bible. Sarah avait eu la bénédiction parce qu'il avait accueilli les visiteurs. Or, ces visiteurs-là, c'était des anges du Seigneur que Dieu avait envoyés. Pour moi, l'hospitalité est une grande vertu à respecter, comme le pape les a honorés. Nous sommes fiers de cela.
Merci à Salomon et bonne soirée chez vous à Kinshasa. Serge Lino Luboya qui se trouve à Luanda en Angola. Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous êtes aussi sur une terre qui vous a accueilli, n'est-ce pas?
L'initiative du pape est vraiment louable parce que là, il n'y a pas vraiment une coloration religieuse particulière. Donc, c'est un peu tout le monde. Donc, par là, comme lui aussi est un religieux, il est aussi un d'État. Donc, c'est une façon de s'entendre, de interpeller le monde entier. Alors, si nous pouvons aller du sentiment, je pense que c'est tout.
Serge, vous êtes encore là? Je pense qu'il y a un problème de connexion téléphonique avec Serge. On va essayer de retrouver. Junior, vous êtes en ligne? Junior? Ça va très bien, Junior Kinombe. On parle de la fraternité humaine, donc de l'hospitalité. Vous, en tant que croyant, comment vous l'accordez à l'étranger, par exemple? À un étranger.
Oui, bon, je pense que l'hospitalité, c'est quelque chose qui sauve. C'est quelque chose qui sauve beaucoup, là, parce que tout le monde peut devenir étranger, tout le monde peut devenir aussi réfugié ou pas. Parce que, tu ne sais pas, par exemple, si tu peux te retrouver dans un pays, tu n'es pas la centre. Pour le moment, je parle ici, si la ligne progresse, ce n'est pas la mienne. Ici, au niveau des pays centrales, alors j'ai été bien accueilli ici. Ils m'ont bien traité, alors pourquoi pas ne pas l'accorder aux autres. Mais ce que vous regardez aussi publiquement, vous voyez que non, avant la destruction de la ville de Jéricho, la fille là qui avait eu la chance de renseigner les Israélites, la position de la ville de Jéricho, avait été sauvée sa famille. C'est parce que la vérité est étrangère. Et si elle n'avait pas cette terre-là, elle ne pourrait pas être vraiment sauvée. J'espère que le pape a pris une bonne décision d'avoir un peu d'intention au micro, parce que quand tu es étranger, tu as quand même besoin de l'amour, tu as quand même besoin de l'intention, que les gens puissent t'accorder un peu cette intention-là. J'espère que l'hospitalité, c'est une chose que tout le monde peut y avoir, l'État est croyant l'accorder aux étrangers, parce que nous sommes tous humains. Malgré nos distinctions raciales ou autres, mais nous restons toujours les humains, même sûr, même ça, et nous devons se tenir entre nous.
Merci à Junior pour votre témoignage. Charles Philippe Bouindima, il dit, l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. L'Occident veut oublier comment ses ressortissants immigrés vers les continents d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et sans visa, mais plutôt comme des colons conquérants. Aujourd'hui, ils ont aussi le devoir d'accueillir des autres chez eux. Marie-Jeanne, on entend très souvent le pape appeler les pays d'être généreux et de tout faire pour empêcher le drame dans la Méditerranée.
Les drames dans la Méditerranée, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, parce que lorsque ces différentes personnes partent de leur nation respective ils se retrouvent là-bas. Parfois, elles n'ont même pas, elles ne communiquent pas dans la même langue. Donc, c'est des situations auxquelles le monde entier fait face de manière subite. C'est des choses imprévisibles. Donc, le souverain pontife a pensé que même ceux qui, par désobéissance ou par désinvolture ou bien par inconscience, ont pris le risque dans la Méditerranée et se sont retrouvés dans des situations inconfortables, ont aussi droit au pardon et ont droit à l'amour. C'est pour ça qu'il a voulu immortaliser leurs âmes, il a voulu leur témoigner de cet amour. C'est même une forme de prière qui les lève pour le repos de ces personnes. Donc, moi, je pense que de temps en temps, ceux qui vont de ce côté-là devraient avoir une pensée pieuse pour ces personnes dont on ignore d'ailleurs l'identité et même les origines. Donc, c'est dans cette optique-là que je vois le geste du souverain pontife.
Merci Marie-Jeanne. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de l'étranger. On peut s'interroger pour savoir à partir de quel moment la loi envisage-t-elle aussi l'intégration des immigrés en Israël. La loi de sainteté, détaillée dans le Lévitique, chapitre 17 à 26, marque un vrai changement. Le peuple a connu l'exil, il cherche à marquer sa différence vis-à-vis des Babyloniens. La loi de sainteté montre une vraie volonté d'intégration, tout en soulignant la différence entre indigènes, l'habitant israélite et l'immigré. Une différence qu'il convient de gommer, mais qui existe bien au départ. Une seule législation pour l'indigène et l'immigré, car je suis le Seigneur votre Dieu. C'est dans Lévitique 24-22. Il y a aussi ce passage très fort, quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré sera parmi vous comme un indigène et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigré au pays d'Égypte. Alors, qu'en est-il des droits exigés des étrangers, outre ces droits de protection? D'une manière générale, l'immigré devait se soumettre à la législation et aux coutumes du pays. Dans la loi de sainteté, par exemple, il pouvait participer à la célébration de la Pâque, mais à condition qu'ils soient circoncis. Et concernant leur intégration ou leur accès à la citoyenneté, il y avait des restrictions. Par exemple, sur le mariage, le livre de Ruth, qui raconte comment une étrangère moabite a été intégrée par le mariage à Israël, plaide pour une ouverture universaliste. Mais les livres d'Esdras et de Néhémie, contemporains des premières générations du retour, dénoncent au contraire tout mélange avec les nations. Dans la logique de ces deux écrits, la préservation de l'identité imposait non seulement l'interdiction du mariage avec des étrangères, mais encore leur renvoi, Esdras 10, comme la mise au banc du pays de tout homme de sang mélangé, Néhémie 13, 3, de points de vue opposés, se sont ainsi exprimés, l'un appelant à l'accueil de la différence, l'autre au repli identitaire. Les émigrés étaient parfois vu comme une menace, on le voit dans l'Ancien Testament où l'étranger est rarement cité comme une menace, à l'exception peut-être du livre de Ben Sira le Sage, bien plus tardif, où il est écrit « Si tu introduis chez toi l'étranger, il jettera le trouble et te rendra étranger aux gens de ta maison. » Dans la pratique, la loi n'était pas toujours bien acceptée. En témoigne la dénonciation de ce qui devient le droit de l'immigré, qui était donc ces étrangers à l'époque des Hébreux, dans les lois du code de l'Alliance et dans le code de Théronique. deutéronomique. Les GER semblent désigner les réfugiés qui seraient venus des royaumes du Nord, qui disparurent avec la conquête des Babyloniens. Et après l'exil, le terme pourrait faire référence à la population judéenne qui n'avait pas connu la déportation. Et comment la perception de l'étranger a-t-elle évoluer, c'est la capacité d'accueil de Jésus-Christ et son attitude vis-à-vis de l'étranger. L'un des premiers miracles, c'est la guérison du serviteur d'un centurion romain. C'est dans Matthieu 8, 5 à 13. Or, les Romains, en tant qu'occupants, étaient détestés. Ils étaient l'ennemi juré des Juifs. Ensuite, il y a la rencontre de Jésus avec une femme païenne, syrophénicienne. C'est dans Marc 7, 24, 30. Tandis qu'elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille, il lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais la femme lui rétorque « C'est vrai, Seigneur, mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. » Ici, Jésus se laisse convaincre par le point de vue de l'autre, à savoir une païenne, une étrangère, qui le contraint à revoir sa propre logique. Jésus réalise qu'il n'a pas seulement été envoyé par Israël, les enfants, mais pour tous les peuples, des petits chiens. Marie-Jeanne, lorsque vous suivez l'évolution et de ce que disent plusieurs versets bibliques, l'étranger, c'est un phénomène naturel.
Oui, bien évidemment, ça évolue au fil des temps et les formules sont changeantes. D'autant plus que nos jours, nous parlons du vivre ensemble, l'acceptation de l'étranger. Moi, je pense que l'étranger a vraiment droit à un traitement spécifique en matière de protection. Et on devrait veiller à ce qu'il ne se sente pas étranger dans son âme, dans sa chair, même dans sa peau. Donc, on devrait tout faire pour l'intégrer, quel que soit l'endroit où il se trouve. Parce que le fait de rappeler à quelqu'un que parce que tu es étranger, tu n'es pas ici, tu n'as pas droit à tel ou tel autre avantage, c'est ça que qui nous ramène aujourd'hui à des guerres inutiles où on parle du principe des autochtones, du principe des aborigènes. Donc, moi, je pense qu'on devrait affectionner l'étranger, l'intégrer dans notre société et apprendre à vivre avec lui comme si nous étions nés d'une même maman, d'un même père, comme si nous appartenions à une même famille. Parce que la Bible nous le démontre. Elle nous démontre que ceux qui ont béni les étrangers ont été bénis. Par contre, ceux qui ont refoulé, qui ont rejeté les étrangers, ont reçu la colère de Dieu. Donc, on doit avoir l'amour du prochain, on doit avoir l'amour de l'étranger et le protéger de manière vraiment spéciale.
Merci Marie-Jeanne Abega. Il y a aussi la parabole du bon samaritain. C'est dans Luc 10, 25 jusqu'à 37. Tandis qu'un légiste lui demande qui est son prochain, Jésus lui donne pour exemple le comportement d'un samaritain. Or, une très grande hostilité existait entre juifs et samaritains. Cet exemple est très fort. Enfin, il y a cette parole très forte de Jésus-Christ. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » C'est dans Matthieu 25, 35, Marie-Jeanne Abega. Il nous reste quelques secondes pour terminer. J'étais un étranger. Marie-Jeanne n'est pas là, malheureusement. On parlait dans ce dialogue des religions de la fraternité humaine, de l'hospitalité et de ce signe posé par le pape François dimanche qui a inauguré une sculpture qui symbolise le migrant et le réfugié. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. C'est sur cette parole de Jésus-Christ qu'on va mettre au terme cette émission. Merci à vous tous qui avez suivi ce dialogue des religions. Eric Manirakiza vous retrouve à la prochaine. Excellente soirée chez vous.